vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 1. Comme un brave pêcheur dans un ascenseur. Chers amis, bonjour! Vous vous souvenez de cette image que vous avez en tête? Le ruisseau qui gambade dans les hautes herbes, vous êtes pieds nus sur de gros cailloux, l'eau est froide et maintenant vous cherchez dans vos souvenirs. Mais quand est-ce que c'était? C'est comme la première fois où vous étiez dans l'ascenseur. Quelqu'un monte, « Bonjour, bonjour, ah, c'est toi, dit la dame. » Et vous répondez poliment, « Et toi, comment ça va ?»« Eh bien moi, cela m'est arrivé dernièrement avec lui. » En fait, c'est la dernière fois où l'on s'est rencontré et c'est effectivement dans un ascenseur. Alors, vous tous autour de la table, vous l'avez bien connu, vous l'avez bien connu. Mais je voudrais d'abord demander, avant d'évoquer ensemble sa mémoire, on l'a tous bien aimé, hein, ça on peut le dire, c'était quelqu'un de formidable et c'est une chance de pouvoir dire « nous l'avons bien connu ». Je voudrais d'abord demander à André quelle est sa réaction quand il croise, par exemple, dans un ascenseur, quelqu'un qu'il connaît bien mais dont il ne se souvient plus de son nom, ni même quand est-ce qu'il l'a rencontré. Alors ça peut être une femme, mais vous savez que c'est quelqu'un d'important. Alors moi, mon nom c'est Ambroise Perrin, je suis journaliste, je rédige des dépêches de fiction, et André, vous êtes le grand critique gastronomique du restaurant L'Alligator à Strasbourg. Après des dizaines d'années passées aux bonnes tables, j'imagine que vous ne reconnaissiez jamais tous les clients. Mais alors, dans l'ascenseur, quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites?
Mais moi, l'ascenseur, je le prends très rarement parce que je suis un peu claustro. Mais effectivement, je marche souvent dans l'eau avec des bottes et je croise plutôt des poissons. Les poissons, des truites, ainsi de suite, et je leur parle. Je médite avec eux. Mais c'est vrai que quand je rencontre des gens en montant les escaliers, je dis comme tout le monde ce que ma maman a appris, d'être poli. « À que t'es à Vikes ?» Je dis bonjour en alsacien. Et voilà, quoi. Et après, je reçois leur sourire ou leur bonjour et on papote un peu. Et voilà, et ça me ravit pour la journée.
Alors, Armel, vous l'avez rencontré qu'une seule fois, je crois.
Pas exactement, en réalité. En fait, on s'est parlé qu'une seule fois, mais on s'est rencontré un nombre de fois absolument incalculable dans la rue. On se prenait à chaque fois pour une autre personne, parce qu'il s'avère que je ressemble énormément à sa fille, et il ressemble extrêmement à mon oncle. Et du coup, il y a eu énormément de quiproquos, où on commençait à se voir et à se suivre dans la rue, en pensant qu'on était quelqu'un d'autre.
Vous alliez lui dire « Bonjour, papa ».
C'était pas mon père, il ressemblait plutôt à mon oncle. Ah. Tout à fait, le frère de mon père.
Oui, alors Armel, oui. Vous faites des livres.
Tout à fait.
C'est ça, vous êtes graphiste.
Exactement.
De l'école d'Andy Warhol, je crois.
Exactement, voilà, c'est tout ça. À fait. Il
s'avère que j'ai également Armel Mihalescu.
Tout à fait.
Voilà, je prononce bien et tout. Alors c'est d'être drôle de confondre comme ça, non?
La première fois, c'est un peu perturbant dans la mesure où mon oncle est mort il y a quelques années. Du coup, le fait de le croiser dans la rue, ça m'a fait un choc.
Ah, c'est le coup de Lazare?
Ah oui, tout à fait.
Le hasard.
Ah, bien sûr, tout à fait, le fameux hasard.
Oui, qui ressuscite de temps en temps. Alors Léa, vous êtes peut-être l'une des seules à être allée chez lui. Et vous avez été étonnée chez lui, au mur. Il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de bibliothèque avec des livres, c'est quand même un intello, hein. Et il n'y avait que des dessins. Et alors vous, Léa Renaud, vous êtes l'organisatrice des événements culturels, grand public au Parlement européen. Est-ce que ce n'est pas de la vanité que de mettre que ses propres dessins au mur?
Alors en effet, moi j'ai eu la chance d'aller chez lui. Chez lui, il n'y avait pas d'ascenseur. Et il y avait pas de livre. Et c'est vrai, il y avait ses dessins. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de vanité? Je ne sais pas, ses dessins étaient très beaux. Peut-être qu'il aurait pu alterner livre et dessin, mais non.
Est-ce qu'il les vendait, ses dessins? Il avait des...
Non, pensez-vous, non. C'était juste pour les exposer sur ses murs.
Ah, chez lui, oui.
Oui.
Ouais, c'est ça. Il ne faisait pas de la concurrence à Tommy Ungerer ou...
Absolument pas. Non, d'ailleurs, il n'a pas de musée, lui.
Ah, oui, c'est vrai. Oui, avec son nom imprononçable, ce serait difficile d'avoir un musée à Strasbourg. Et alors, quand il est venu chez vous, Claire, parce que alors, vous êtes... Alors, bon, il est venu chez vous, mais il faut dire que... Vous, on, je ne sais pas, à la radio, on peut le dire, vous êtes une bombe. Hein, donc, il est venu chez vous et il s'est mis à parler en anglais. Enfin, c'est vous qui me l'avez raconté, en allemand, en espagnol et surtout en italien. Alors, Claire Pedotti, comme ça qu'on prononce.
Absolument.
Oui, oui. Vous êtes médium international. Vous traduisez la pensée des gens dans des langues assez folkloriques. Est-ce que quand il parlait l'italien, est-ce qu'il avait l'air sérieux ?
Oui, il avait l'air tout à fait sérieux. Je veux dire, c'est une langue sérieuse. Hein. Et il parlait italien, mais avec un drôle d'accent, un peu serbo-croate.
Ah
et
bon.
Il est venu chez moi tout à fait par hasard. En fin de compte, moi, je ne l'ai jamais rencontré à l'intérieur. Je l'ai toujours croisé la nuit. À cette époque, à Strasbourg, la nuit, il y avait une espèce de brume qui sentait bon le malt et le vin blanc. Et surtout quand il y avait du brouillard. Et c'est toujours à ces occasions-là que je l'ai croisé, à vélo.
Dans le brouillard.
Dans le brouillard. Et je ne me rappelle pas vraiment comment il est arrivé chez moi.
Mais c'est vrai qu'on pourrait demander à Armel, parce que moi j'ai plutôt une image de lui comme de Fellini. Et alors, est-ce que votre oncle ressemblait à Fellini ? Est-ce qu'il était cinéphile ?
Alors, mon oncle, pas tout à fait cinéphile, mais il a écrit de nombreux romans. Donc, en un sens, il avait un maniement de l'image, mais plus dans ses mots qu'à travers une caméra. Mais non, il ne lui ressemblait pas particulièrement. Mais il avait ce quelque chose dans le regard et, je ne sais pas, dans la forme de la tête ou... Dans la couleur des cheveux, qui me faisait définitivement penser à mon grand-père, du coup le père de mon père et de mon oncle.
Et c'était une façon de dire « je me souviens ».
Ah tout à fait, bien ouais. Sûr, bien sûr, je me souviens d'énormément de choses avec lui. Mais justement, comme je disais, je le croisais beaucoup dans la rue, et vu que je ressemble beaucoup à sa fille, ça a créé beaucoup de quiproquos, parce qu'il commençait à m'appeler avec son prénom, donc Claire, et vu que je m'appelle Armel, je comprenais pas trop pourquoi mon oncle, soudainement ressuscité, commençait à m'appeler Claire, qui est par ailleurs le prénom de ma petite sœur. Donc je me disais, c'est quand même étrange, il y a un petit souci là-dedans.
Il y a un côté quand même assez frénétique, parce que c'était quelqu'un de, à 100 000 volts, hein, qui faisait Monsieur. Plein de choses. Et alors, d'aller à la pêche, contempler les poissons, c'est quand même quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire, c'est prendre du temps, c'est nécessaire d'aller à la pêche quand on a une vie aussi active.
Pour moi, aller à la pêche à la mouche, c'est la méditation. C'est marcher dans la nature et de contempler. D'abord, de regarder autour de moi. Quand on pêche à la mouche, c'est... Lire la rivière, c'est comme si tu lis un livre. D'abord, il faut la lire, la rivière. Dire qu'est-ce qu'il y a comme insecte au-dessus de l'eau, que mangent les truites aujourd'hui. Et alors, à ce moment-là, avec ta canne à pêche et ton moulinet et ta soie que tu poses au bord de l'eau, qui tombe comme là, avec un leurre, qui est une petite mouche que je fabrique moi-même, le poisson, il faut le leurrer. Il faut lui montrer que ce qu'il mange, je le mets au bout de mon hameçon, je le sors de l'eau et je le relâche en lui faisant un petit bison, en lui disant « Merci, ce que tu m'as offert aujourd'hui, c'était une excellente journée. Je remercie Dame Nature d'avoir fait cela, d'avoir fait de si belles rivières limpides. Et moi, je vais beaucoup pêcher en Allemagne dans des rivières extraordinaires. » Je ne sais pas si vous avez vu le film, le film de Redford, « Au milieu coule une rivière
oui, ». Oui,
c'est
oui.
Exactement ça que je ressens pour moi, c'est de la méditation. C'est d'être loin de mon téléphone portable, loin de tout le monde, et d'être tout seul avec des oiseaux, des écureuils, des poissons, et vivre et respirer la nature.
Léa, vous partiriez avec lui un week-end comme ça, de méditation
ah oui.
ou pour prendre des cours de peinture ou...
De méditation, de pêche, de peinture, oui, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il a dessiné des poissons ?
Il en a dessiné, bien sûr, et surtout, il aimait en manger. Et il mettait jamais, jamais, jamais de citron sur ses poissons. Il les aimait nature, comme ça.
Oui.
Et parfois, il s'étranglait un petit peu avec une arête. Mais ça l'a jamais dissuadé de continuer de manger des poissons. Il adorait ça.
Pardon, mademoiselle, je peux vous arrêter parce que la philosophie de la pêche à la mouche, c'est de relâcher le poisson et de jamais le manger. C'est la philosophie de la pêche à la mouche. C'est jouer avec le poisson et le relâcher dans la rivière parce qu'il n'est pas blessé. Il y a juste des petits ardillons au bord des lèvres et on le relâche. Donc, je ne mange pas de poisson parce que sinon, je suis malheureux de me dire « j'ai joué avec ce poisson ». Et je le relâche. Voilà.
Oui. Alors là, nous avons une polémique. Hein,
oui. Ah bah oui, il faut de temps en temps.
Il y a des auditeurs qui oui. sont peut-être des spécialistes des mouches. Bah, oui. D'ailleurs, les mouches, oui, celles du 19e ou du 18e, ou, oui, Claire... Oui,
de toute façon, c'était un transgresseur. Hein. Donc, pour moi, il n'y avait rien
Il chantait la mouche, non ? Qui c'est qui chantait la mouche ?
Non, c'est la truite.
Ah bah non, la mouche.
La.
C'est pas le Naref.
Ah non.
Ah oui, la mouche.
Ah oui, et ton nez.
Ah bah oui,
tu te souviens?
Ah bah oui.
Oui, la mouche ton nez.
La mouche
oui.
ton. Ah, intéressant.
Bah oui. Oui, donc Claire, alors c'est une transgression finalement que de pêcher et de rejeter le poisson.
Non non, la transgression c'était de pêcher à la mouche et de manger le poisson.
Ah voilà.
Surtout sans citron.
Oui, mais quand on pense que
ça correspondait tout à fait.
Les poissons ils souffrent quand même quand ils sortent de l'eau. Parce que, bon, comme dans l'eau, son ne passe pas, il ne crie pas, on ne l'entend pas crier, mais si par exemple...
Peut-être un tout petit peu de stress avec la truite, mais en fait, le petit ardillon, les petites mouches que je fabrique, ça lui pique les lèvres, et moi, avec une petite pince de dentiste que mon copain dentiste m'a offert, je lui enlève ça délicatement, je lui fais une bise sur le front, je le remercie, et je le pose délicatement, comme un bébé dans l'eau, comme ça, tu vois, quand tu le baignes, voilà, tout doucettement, voilà.
Voilà. Alors... Vous avez des enfants aussi,
Armel? Non, pas du tout.
Pas encore, non.
Non,
parce qu'il parlait
encore,
des bébés, mais non.
Ah oui, non, pas encore. C'est pas tout à fait à ça que je me destine pour l'instant. Je suis encore un peu jeune, mais un jour peut-être, on sait jamais. Et pourquoi pas avoir des enfants mouches ou des enfants truites,
Mouche.
Ah oui, tout à fait.
On les parlait comme ça.
Exactement. Et c'est clair, comme vous dites, qu'il y a un certain dialecte avec ces enfants à avoir, une grande sensibilité, parce que ça reste des êtres très, très fragiles, très sensibles.
Le comprenez, le dialecte, quand le poisson vous parle? Vous le comprenez?
Alors, je le comprends, le comprends, mais je n'arrive pas à le parler encore,
mais
malheureusement.
C'est pas possible.
C'est une tradition qui s'est perdue dans ma famille.
Ah bah, je...
Tout à fait.
C'est drôle de famille.
Je sais, mais il y a plusieurs membres qui sont morts et qui étaient justement les gardiens de chez moi, de ce dialecte.
On
ne
peut pas les ressusciter, non? Pour qu'ils vous apprennent le dialecte alsacien?
Franchement, j'aimerais bien. Ce serait avec grand plaisir, mais visiblement, le miracle a déjà eu lieu dans ma famille. Il y a mon oncle qui a déjà été ressuscité une fois.
Est-ce qu'on parle alsacien au Parlement européen?
Assez peu. Très sincèrement.
Quel dommage.
Ou alors avec l'accent alsacien, Joseph Daul, par exemple, lui, c'était fort, en bitop.
L'accent, oui.
Oui,
oui.
Oui, oui.
Au Parlement.
Oui, au Parlement.
Ne vous moquez pas des Alsaciens.
C'est un hommage.
Sinon, je vous tire les oreilles, là, tous les quatre.
Voilà.
Ortung.
Bon, on parle de la pêche, mais est-ce qu'il était aussi chasseur? Parce que souvent, est-ce qu'un pêcheur peut être un chasseur? Alors, il y a des chasseurs qui font des pêchés, mais ça c'est autre chose. Ouais. Mais est-ce qu'un pêcheur est... Non.
Non, moi je vais vous dire sincèrement, Broise, moi je suis un pêcheur, mais pas un chasseur. Je ne pourrais jamais, jamais faire mal à Bambi. Ça me m'arracherait le cœur. Ça m'arracherait le cœur. Et moi, les choses dans la nature, je les observe, je les mire, je les regarde et je les prends dans mon cœur. Mais jamais chasser. J'ai déjà vu des chasseurs lors d'un reportage qui tiraient à l'arc sur un renard. Mais c'était horrible. J'en ai fait des cauchemars pendant des semaines et des semaines.
Ah oui. Yvan Noé ou...
Moi, je suis de la génération du Thierry Lafront.
Thierry Lafront.
Moi, je suis un justicier. Vous avez une fausse note, là, Ambroise. Une fausse note.
Ça nous rajeunit de...
Un petit peu, ouais.
Un petit peu, Isabelle et Thierry.
Ah, Isabelle, la plus belle de la forêt.
Mais oui,
génial. Avec Thierry Lafront.
Oui. J'ai revu un épisode il n'y a pas longtemps.
Et vous avez vu Kiri le Clown aussi à l'époque?
Ah non, non.
Kiri
le Luron, mais pas Kiri le Clown.
Génial. C'est toute mon enfance.
Mais l'acteur qui joue belge, qui joue Thierry Lafronde, qui s'appelle Jean-Claude Drouot, il a fait une super carrière.
Ouais, absolument.
De théâtre.
Surtout du théâtre.
Et alors, je me demande s'il n'a pas joué parce que j'ai dit que je l'ai
côtoyé.
La dernière fois que je l'ai côtoyé, c'était dans un ascenseur, mais je me souviens que je le rencontrais souvent au TNS en sortant dans les couloirs. Et je me demande si il a pas été figurant une fois dans une pièce de Jean-Claude Drouot.
Ah, c'est fort possible. C'est possible. Il était assis sur une chaise, je crois.
Ouais,
tout en haut, sur un trapèze.
C'est un Shakespeare.
Et il balançait le long d'une corde. Oui, ouais, je me souviens bien. Oui, Mais je me demande si les jeunes filles qui sont autour de nous ne sont pas un peu de l'époque de Casimir. Parce qu'elles ne connaissent pas Thierry Lafronde. C'est plutôt Casimir, non?
Non, je pense,
Casimir, moi, je ne connais pas.
De Nounours, c'est une marchande de Sam.
Ah, Nounours, quand il fallait se laver les dents le soir avec maman. Allez, hop, in spit.
Et le manège enchanté.
Tu regardes Nounours.
Avec les
scarabées. Zébulon. C'est génial.
Ah oui,
Tournicotis. Tournicoton, tournicoti, c'était Zébulon et Margot avec Pollux.
Voilà. Alors, bon, c'était quand même un artiste rigolo, hein, c'est pour ça qu'on en parle comme ça, mais il faisait quand même des choses.
Il y avait une face noire chez lui, hein,
oui.
Définitivement. Oui. Ça ramène à la transgression dont on parlait tout à l'heure. Et moi, quand je l'ai rencontré, je crois qu'il était à la recherche d'un secret.
Ah.
Quand il est arrivé chez moi, il a regardé partout. Comme s'il était sûr d'y trouver quelque chose.
C'est le désespoir qui est la forme de la politesse de je ne sais plus quoi, mais des grands artistes. Parce qu'il laisse quand même une œuvre impressionnante.
Pas le souvenir.
Il ne cherchait pas une fronde à Strasbourg ?
En plastique.
Non, en bois. En bois, avec des tendeurs.
Parce que moi, je me rappelle de la fronde en plastique.
Ah, en plastique, ça. Il n'a jamais joué avec ça.
Il y a eu les frondeurs aussi.
Il y avait des frondeurs, bien sûr.
Le pauvre François, il en a pris plein avec ça.
Plein la vue, malheureusement.
Mais se révolter quand même, on se révolte.
Ah, c'est nécessaire. C'est nécessaire de se révolter.
Mais alors, on se révolte parce que chaque personne a trois vies. Hein. C'est Garcia Marquez qui dit ça. On a une vie personnelle, on a une vie privée et on a une vie secrète. Mais quand on connaît sa vie personnelle, Armelle, hein, puisqu'il y avait un côté famille et tout, est-ce qu'on arrive à déceler le secret dont parlait Claire, comme ça?
Ça a toujours été quelqu'un, comme a dit Claire, avec une grande part de secret, une grande part d'ombre, qu'au final, même s'il ressemblait beaucoup à mon oncle, physiquement, je veux dire, mentalement, ça n'était pas du tout la même chose, la même personne. Il gardait toujours des choses très, très cachées en lui.
Mélancolique,
je ne dirais pas. Ce serait plus une sorte de colère intérieure, une sorte de révolte contre les choses de la vie.
Gérard de Nerval.
Peut-être, oui. Ouais. Tout à fait. Donc une mélancolie, je ne dirais pas. On ne se rapproche pas d'un Van Gogh, mais plutôt quelqu'un qui se révolte des choses, qui veut faire bouger les choses par une sorte de bouillonnement intérieur, une sorte de rage à l'intérieur de soi, comme ça.
On trouvait cette rage dans ses dessins ? Est-ce que c'était calme comme dessin, ou au contraire...
Vous savez, il a fait vraiment toutes sortes de dessins. Je trouve que dans certains de ses dessins, on pouvait ressentir cette part d'ombre. Dans d'autres dessins, c'était plus l'artiste rigolo qui s'exprimait. Mais pour en revenir à la pêche, puisque c'était un pêcheur, il n'était pas chasseur, mais il aimait bien cueillir des fruits aussi. Et un jour, je l'observais pendant qu'il cueillait des mûres. Et j'avais parfois l'impression qu'il faisait exprès de se piquer contre les petits pics en attrapant des mûres. Et il était très pensif. Et je me suis dit que dans cet homme-là, il devait avoir à la fois énormément de tristesse et énormément de colère aussi.
Je murmure derrière le mur, murs sont mûrs.
Pardon, est-ce qu'il n'était pas songif ? Pensif et songeur, ça se conjugue à la même temps et ça fait un mot songif. Alors je me demandais s'il n'était pas songif.
Si, je pense tout à fait qu'on peut dire ça exactement. Merci, c'est ça, il était songif.
Oui, songif. Oui.
Un joli mot, non ?
Oui, ça pourrait être le nom d'un savon.
D'accord.
Mais non,
mais je me souviens, je crois que c'était le nom d'un liftier également, qui m'emmenait dans les ascenseurs au 8e étage du Magmode.
Mais oui.
Et de temps en temps, c'est moi qui appuyais sur le bouton et je m'arrêtais au 4e.
Oui, mais je me souviens, quand j'avais 6 ans, la première fois que ma grand-mère m'a amené au Magmode.
Au Magmode.
Et l'attraction, c'était de prendre l'ascenseur. On ne savait pas ce que c'était.
Et
moi, je venais
arrêter à des étages qu'on n'avait absolument pas envie d'y aller.
C'était formidable.
Et là, il y avait des choses. La cuisine, ça ne m'intéressait pas du tout. Je vais m'arrêter au rayon des jouets pour trouver des frondes et je ne les ai jamais trouvées.
Ah oui, mais alors l'ascenseur avec le
lift
soufflé, là. ah, qui tournait magnifique, là, en bois, là,
avec la porte.
J'ai encore le bruit dans l'oreille de cet ascenseur, je me souviens, oui. Et alors, justement, ascenseur pour l'échafaud. Hein, ah, parce que rester
c'est pas le nom d'un film,
mais de Louis Malle,
bien entendu.
Avec la musique de
Malle. Qui était le liftier du Magmode.
Et je crois que c'était Jeanne Moreau qui jouait aussi dedans, et Maurice Ronet. Et alors, c'est Miles Davis qui a fait la musique. Formidable, génial. Oui, il a improvisé. Alors, je sais qu'il était amoureux de Jeanne Moreau, et je crois qu'ils ont vécu ensemble.
Ah, mais il a eu raison, elle était magnifique, Jeanne.
Formidable.
C'est une bombe, comme ma voisine. Une bombe.
Oui. Mais alors, c'est quand même terrible, parce que j'aurais dû lui en parler dans l'ascenseur, et j'ai pas tellement osé. Je pense que quand on rencontre des gens aussi formidables... Vous êtes d'accord avec moi, il faut avoir de l'audace, non? Je fais vite un tour de table.
Sans audace, sans
pas
audace.
Sûr. Hein.
Pas d'audace.
Non. Un peu d'audace, mais peut-être avec tact. Hein. Oui. Parce que moi, je pense que c'est...
Pour moi, l'audace, Ambroise, c'est dans ma carrière professionnelle. Si je n'avais pas eu d'audace, je n'aurais jamais fait mon métier. Et moi, si vous me fermez la porte, là, je rentre par la cheminée ou par une petite roue de la serrure.
André
comme
Muller,
une souris.
Qui est un peu le Père Noël, oui. Voilà.
Non, je n'ai jamais été le Père Noël, parce que je ne suis pas une ordure.
Armel. De l'audace, encore de l'audace, oui.
Non. Ah oui, tout à fait, chez les jeunes, il y a énormément d'audace. Mais après, je pense que, justement, puisqu'on parle de gens qui ont énormément d'audace, qui amènent beaucoup, beaucoup d'énergie, est-ce que, justement, quand on rencontre ces personnes, il ne faut pas savoir se modérer pour créer un équilibre dans les énergies? Par exemple, histoire de...
Oui.
De
ça, c'est la carola verte, parce qu'il y a l'eau gazeuse, l'eau plate, et l'audace.
Enfin,
pétillante, quoi. Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Et Claire...
Qui a très bon goût, d'ailleurs.
De l'audace, Léa.
Je pense que quand on rencontre une personne telle que lui, c'est pas vraiment l'audace qui compte, c'est plutôt l'humanité. C'est vraiment ça.
L'humanité. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines. Il revint. Il eut d'autres amours encore, mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Au revoir à tous, l'émission est terminée. À bientôt, à la semaine prochaine. Vous l'aviez bien connu.
Salut Bissom.
Comme un brave pêcheur dans un ascenseur, avec Armel Mialescu, graphiste docteur en dessin, Léa Renaud, organisatrice d'événements culturels au Parlement européen, André Muller, critique gastronomique du restaurant strasbourgeois L'Alligator, Claire Pedotti, médium et traductrice internationale. À la technique, Lucas Bringou, vous l'avez bien connu. Rendez-vous mardi prochain à 11h30, épisode numéro 2. Quand j'étais petite, je ne voulais pas grandir, mais apprendre à lire et à écrire. Et mon nom est Ambroise Perrin.